RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Grande gueule en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé, avec n'oubliez pas, dans un quart d'heure maintenant, un tirage au sort, l'un d'entre vous qui va gagner le séjour de 2 jours pour 4 personnes à l'Europa Park en envoyant Europa par SMS au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner. Il y a les 100 attractions de l'Europa Park, le spectacle, le nouveau quartier dédié à Monaco, l'univers aquatique rue Lantica. C'est pour vous, Europa par SMS au 732-16. Aujourd'hui dans les GG, la prof de français Fatima Hidbounois, le consultant juridique Antoine Diers, l'agriculteur de Saône-et-Loire Didier Giraud, et on accueille notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Bonjour monsieur le député Charles Alloncle.
Merci de votre invitation, bonjour.
On a mis une petite musique de cirque, le cirque se termine aujourd'hui à l'Assemblée nationale alors ?
Je vois que vous ne faites pas exception avec l'ensemble de la classe médiatique qui par corporatisme préfère discréditer ces 6 mois de révélations de commission d'enquête. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais si je suis là, déjà, merci pour votre invitation. J'ai fait très peu de médias, d'ailleurs, ces dernières semaines et ces derniers mois, pour me consacrer vraiment sur le fond. On a fait un peu plus de 70 auditions, on a écouté près de 300 personnes. Je crois qu'il y a eu beaucoup de révélations qui ont été faites, et donc je serais ravi de répondre à l'ensemble de vos questions.
Mais j'ai l'impression quand même, Charles Alloncle, que vous êtes tout seul. Même le président de la commission sur l'audiovisuel public, monsieur Jérémy Patrilletus, vous accable. Il était sur une radio concurrente en début de semaine pour dire que finalement vous aviez transformé cette commission en tribunal politique. Comment ça se fait que vous vous retrouvez, alors vous avez parlé de la classe médiatique, mais un peu tout seul. Alors, vous avez le service public contre vous, mais vous avez même le président de votre propre commission qui vous critique.
Oui, vous savez, moi je vais refuser de tomber dans ce piège, de commenter les critiques des uns et des autres, parce que tout ça est fait à quelques jours du vote du rapport pour éviter de parler du fond, pour éviter de parler des révélations, pour éviter de parler de tout strike qu'on a mené, qui a permis au fond de lever le capot sur les 4 milliards d'euros d'argent public dépensé chaque année pour l'audiovisuel. Quand on parle et qu'on répond aux attaques, on ne parle pas par exemple des conflits d'intérêts qui minent l'audiovisuel public. On a pu le voir, il y a des dirigeants de France Télévisions qui basculent dans des sociétés de production après avoir empoché des chèques très importants d'indemnités de licenciement. Ça a été l'une des révélations de cette commission d'enquête. On ne parle pas des abus sur l'utilisation de l'argent public, par exemple des suites dans des palaces à Cannes de Madame Ernotte et des dirigeants de l'audiovisuel public qui ont donné lieu d'ailleurs à l'ouverture d'une enquête du tribunal pour détournement de biens publics et abus de biens sociaux.
Donc en fait, vous gênez.
On ne parle pas de la bureaucratie.
Non, mais pourquoi le président dit ça? Pourquoi il parle de tribunal politique? D'ailleurs, vous dites vote d'un rapport, mais c'est pas sûr que votre rapport soit voté vu l'ambiance.
En fait, tout ça pour vous dire que on est pour que les téléspectateurs et les auditeurs comprennent, on est à quelques jours d'un vote très important qui est le vote du rapport qui conclut ces 6 mois d'enquête de la commission. C'est la première fois que l'Assemblée nationale fait une commission d'enquête sur le sujet de l'audiovisuel public. Je m'en étonne parce que ça représente une somme très importante. 4 milliards d'euros d'argent public, c'est la moitié du budget du ministère de la Culture, quand on sait par exemple que pour la sauvegarde du patrimoine, on attribue seulement 4,5% du budget.
D'accord, mais si ce rapport n'est pas voté.
Donc tout ça pour vous dire que plus on alimente des polémiques à quelques jours du vote du rapport, plus on crée un terreau favorable pour donner des arguments aux 31 députés membres de la commission d'enquête de ne pas le voter. Et je voudrais revenir sur un point.
Si ce rapport, mais pour que les gens comprennent, s'il n'est pas voté ce rapport,
exactement,
il termine aux oubliettes, voilà, qu'est-ce qu'il va devenir?
Ce n'est pas que le rapport qui ne sera pas publié, c'est l'intégralité des vidéos, des auditions, des comptes rendus des auditions qui disparaîtront du jour au lendemain, notamment du site de l'Assemblée nationale, et qu'on ne pourra plus exploiter. Donc il y a un enjeu qui est immense, qui est énorme en ce moment, qui d'ailleurs est à la hauteur et à la proportion du déchaînement médiatique qui est en train de se produire en ce moment contre moi et contre globalement les travaux qu'on a fournis sérieusement depuis 6 mois. Puisque si le rapport n'est pas publié, on ne pourra plus diffuser et retrouver les vidéos de ces 70 auditions, on ne pourra plus retrouver les comptes rendus de ces 70 auditions, on ne pourra même plus relayer des révélations et des propos qui ont été tenus dans le cadre de ces auditions sous peine de poursuite pénale. Donc vous voyez, je voudrais simplement vous interpeller sur le fait que l'enjeu de jeter le discrédit dans ces derniers jours. La ficelle est quand même très grosse. Ils vont tous se déchaîner pour essayer d'obtenir un vote défavorable. Et moi, je veux pas répondre aux polémiques. Je veux pas répondre aux attaques parfois très basses. Je veux qu'on se concentre sur le fond. Et je suis là pour répondre notamment à cette question. Quelles sont les révélations? Je sais que Patrick Cohen l'a posé. Je voudrais vraiment qu'on parle de ça et pas de la forme et pas des polémiques.
Parce que Patrick Cohen était assis à cette même place et il a cette question à vous poser. On va l'écouter.
Je serais curieux qu'il puisse nous dire réellement, en réalité, ce que sa commission d'enquête, il y a eu 230 personnes auditionnées quand même, a permis de révéler sur le fonctionnement de l'audiovisuel public, parce que moi, je ne sais toujours pas.
Alors, qu'est-ce que vous avez révélé ?
Moi, j'ai pas de doute sur la qualité et les compétences journalistiques de Patrick Cohen. Je pense qu'il a été parfaitement conscient et au courant des révélations faites. La première révélation, qui pour moi est le cœur de cette commission d'enquête, c'est les conflits d'intérêts qui minent l'audiovisuel public avec les sociétés de production privées. Ce qu'il faut que les Français sachent, c'est que France Télévisions attribue près d'un milliard d'argent public chaque année à des sociétés de production privées pour produire les propres contenus de France Télévisions. Alors que France Télévisions dispose de 9000 salariés, payés en moyenne 72 000 euros par an, qui les situe dans les 9% des Français les mieux rémunérés chaque année.
Mais c'est dans son cahier des charges. Et la France Télévisions a l'obligation de faire travailler des sociétés privées.
À hauteur de près de 300 millions, et là on est sur près de 900 millions, donc on voit que ce cahier des charges est plus qu'explosé et que ces sociétés de production privées en profitent allègrement, et ça donne lieu à des cas de conflits d'intérêts extrêmement préoccupants. Je vais vous en citer deux.
Il y a des appels d'offres ?
Non, il n'y a pas d'appel d'offres, parce que malheureusement, ce sont des œuvres considérées comme des œuvres de création, et donc ça échappe au procédé classique de marché public, ce qui appelle d'ailleurs à beaucoup de schémas de déviance et à beaucoup de schémas de conflits d'intérêts. Donc je vais vous citer deux exemples, c'est le cas par exemple de Nathalie Darigrand, qui était directrice de France 5, qui a signé les contrats parmi les plus importants de France 5, qui est une société de production privée, Together Media. Elle s'est fait licencier de France Télévisions, elle a pris une indemnité de licenciement de près de 400 000 euros pour se retrouver quelques mois après à la tête de cette même société de production privée. Pour autant, les liens n'étaient pas brisés avec France Télévisions parce qu'elle a triplé le montant de contrats passés entre cette société de production et France Télévisions.
C'est un manque de garde-fou en fait. Faudrait fixer des règles en la matière.
Ça manque de garde-fou et on voit que l'argent public aujourd'hui est fait pour alimenter des contrats de sociétés de production privées. Et moi, je m'étonne que une grande partie de la gauche et des macronistes qui s'élèvent contre le risque de privatisation ne s'élèvent pas de la même façon contre la privatisation qui est en cours aujourd'hui chez France Télévisions, puisque l'immense majorité des contenus de France Télévisions est délégué à des sociétés de production privées qui ont des intérêts financiers. Monsieur Niel et Monsieur Pigas sont fondateurs et actionnaires de la première société de production privée, Media One, qui fournit des contenus de France Télévisions à hauteur de 110 millions d'euros par an. Donc, à nouveau, on va prendre un point de recul. On voit Le Monde, le Huffington Post, le Nouvel Observateur, Les Jours, tous les médias de Monsieur Niel et Monsieur Pigas qui se déchaînent contre moi en ce moment pour essayer de me discréditer, il y a des intérêts financiers qui sont énormes dans l'affaire. Et plus je me suis intéressé à ces intérêts financiers, plus je me suis intéressé à ce milliard de contrats passés chaque année, plus j'ai subi
Vous voudriez que le public produise tout ? Parce que c'est étonnant, parce que vu votre parcours politique et votre positionnement politique, vous êtes plutôt la droite libérale, si j'ai bien compris. Ce procès que vous faites aux sociétés privées me paraît assez incongru en fait, parce que on peut déléguer au privé
une partie du
travail, peut-être parce que ces sociétés privées font mieux que ce que pourrait faire le public.
Mais c'est du copinage pur et simple. Il n'y a aucune règle et aucun respect des marchés publics. On donne des contrats à des grosses sociétés qui sont détenues par quelques personnes.
Qui
ont un pouvoir médiatique, mais qui ponctionne l'argent public. Je vais vous citer un exemple. C'est l'exemple, par exemple, de Nagui, qui est co-actionnaire de Banijé, qui est la deuxième société à profiter des contrats de production chaque année, à hauteur de près de 90 millions d'euros par an. On a pu voir dans l'audit de production de Nagui que sur sa simple émission, N'oubliez pas les paroles, il est rémunéré l'équivalent d'1,5 million pour son émission. Et dans le contrat, dans l'audit de production, on a pu voir que il s'était versé une rémunération de près de 400 000 euros supérieure à ce qui avait été convenu au devis.
Mais il rapporte de l'argent, hein, puisqu'il faut quand même rappeler que le service public, et notamment France 2, est financé en partie par de l'argent public, l'argent de nos impôts, mais aussi par la publicité. Et Nagui est d'ailleurs programmé au moment où il y a la publicité. Donc, il doit faire de l'audience pour apporter de l'argent. Et il rapporte de l'argent. C'est d'ailleurs ce qu'il vous a expliqué lors de cette audition.
Non, mais pardon, le rôle de cette commission d'enquête, là, c'était d'enquêter. Il y a des soupçons de favoritisme énormes qui ont d'ailleurs valu une condamnation à Nagui et à sa société de production dans les années 90. C'était une condamnation pour comportement déloyal et favoritisme avec France Télévisions. On était dans les années 90. C'était la fameuse affaire des animateurs producteurs, des voleurs de patates. Il y avait Jean-Luc Delarue, il y avait Arthur, et on voit que 30 ans après, on n'a pas retenu les leçons de cela. Si je vous cite cet exemple, c'est parce qu'on voit aussi que l'ancien numéro 2 de Banijay, Takis Candilis, a basculé de Banijay Société de Production à France Télévisions. Il est devenu numéro 2 de France Télévisions. Et là, dans les deux années où il a officié comme numéro 2, il a fait exploser les contrats de Nagui, qui lui-même est coactionnaire de la société de production depuis laquelle M. Candilis venait. Et ça ne l'a pas empêché de faire simplement ça. Il est resté 2 ans à la tête de France Télévisions. Il a fait passer, par exemple, le nombre de prime de Nagui de 3 à 11 le samedi en l'espace de quelques mois.
Mais ça marche.
Il est revenu,
oui,
il est revenu dans sa société de production.
Les émissions de Nagui fonctionnent, elles font l'audience. Donc le contrat est rempli, en quelque sorte, puisque c'est ce qu'on lui demande.
Quand vous voyez des clauses qui expliquent que les contrats passés par cet animateur-producteur seront favorisés par France Télévisions, quand vous voyez les montants, les montants sont quand même colossaux. C'est à peu près 2500 euros pour 30 minutes d'émission. Il y a 14 émissions qui sont produites chaque jour, pour N'oubliez pas les paroles. Donc ça fait un montant de 35 000 euros par jour perçu par Nagui, un montant sur donc une saison et une émission de N'oubliez pas les paroles, il y a 1 500 000 euros.
Pour vous, il est trop payé.
Le rôle de cette commission d'enquête, c'est de voir à quel moment des personnes s'enrichissent sur le service public, sur l'argent des Français, sans garde-fou, sans marché public, sans respect strict des règles d'appel à concurrence. Ça a été tout le rôle de cette commission d'enquête. Et vous voyez, plus je m'y suis intéressé, plus j'ai creusé les contrats passés et les absences de garde-fou, plus on a commencé à se déchaîner et à me taper dessus. Donc voilà, je vois aussi que le cœur de cette commission d'enquête a été la passation de ces contrats. Et il était temps, une bonne fois pour toutes, c'était la première fois qu'à l'Assemblée nationale on s'intéressait à ça. Quand on parle de l'argent des Français, c'est important de faire preuve de la plus grande vigilance.
Moi, je vais vous dire, monsieur le député, je suis horrifié du nombre d'attaques que vous subissez. Quand il y a eu les commissions Benalla, les commissions d'enquête Benalla, les commissions d'enquête sur le Covid, les commissions d'enquête sur le Mediator, sur la fraude fiscale, tout le monde a considéré qu'il était légitime pour le Parlement de s'intéresser à ces sujets. Quand vous intéressez à un sujet avec l'ensemble de la commission d'enquête, qui est parfaitement légitime, quand vous mettez en lumière les sommes, les méthodes, etc., eh bien, j'ai le sentiment que vous gênez une sorte d'état profond. Moi, ce que j'appelle la gauche culturelle, des gens qui se sont arrogés beaucoup de contrats, qui tiennent beaucoup de choses dans l'audiovisuel public, beaucoup d'argent public pompé. Alors, moi, je vais vous dire, je suis heureux que la commission d'enquête ait pu permettre de mettre en lumière des chiffres. On vous reproche d'être un juge. Vous considérez que vous êtes un parlementaire qui met en lumière des choses pour faire comprendre aux citoyens que je suis, ou alors que vous êtes un juge ?
Dans commission d'enquête, je vous remercie pour votre question, dans commission d'enquête, il y a enquête. Il faut que les Français comprennent que c'est pas une table ronde. Le rôle de l'Assemblée nationale, c'est défini dans la Constitution, c'est d'évaluer les politiques publiques et de contrôler l'action du gouvernement. C'est d'ailleurs un rôle que les députés...
Vous êtes un enquêteur ou un procureur ?
C'est d'ailleurs
un rôle... Vous êtes
un
enquêteur ou un procureur ?
Mais ni l'un ni l'autre. Je suis un parlementaire qui effectue sa mission inscrite et consacrée dans la Constitution, qui est d'évaluer les politiques publiques et de contrôler l'action du gouvernement. Bien souvent, les députés se sont réduits à une seule et simple mission de lever la main dans l'hémicycle pour voter les lois. Ils ont oublié l'évaluation des politiques publiques. Ils ont surtout oublié comment on pouvait remettre de l'efficacité dans les dépenses publiques et dans les impôts des Français.
Pour une fois qu'on sait ce que les parlementaires font parce qu'on le regarde,
Fatima.
C'est pas mal.
Fatima.
Vous dites que votre rapport risque d'être enterré parce que finalement tout le monde se ligue contre vous. Mais est-ce que votre rapport ne risque pas d'être enterré à cause de vous ? Dans le sens où, moi, ce que j'entends, quand j'entends Jérémy Patrier,
Jérémy Patrier, voilà, l'étude, président de la commission.
Le président de la commission qui prend des distances avec vous, ce qu'il vous reproche, ce n'est pas ce que vous dites, c'est finalement aussi votre style. L'idée que vous ne vous mettez pas au service d'une cause, mais vous avez mis cette cause à votre service pour vous créer un nom, pour devenir finalement un personnage. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous reprochent cela, justement?
Bon, vous savez, je pense que je n'avais rien à gagner à tout ça. Quand on regarde de près les 4 milliards d'euros d'impôts des Français qui sont consacrés à l'audiovisuel public, vous pouvez être sûr que vous allez vous mettre toutes les chaînes publiques à dos. Ça a été le cas depuis le premier jour. Vous allez vous mettre à dos aussi tous les actionnaires et fondateurs de sociétés de production qui prennent 1 milliard d'euros d'argent public chaque année par France Télévisions. C'est le cas de M. Niel, de M. Pigas, qui, lors de leur audition, se sont déchaînés par des outrances verbales et une forme de violence aussi dans le cadre de cette audition, alors qu'on a auditionné nombre de patrons d'entreprises qui se sont parfaitement tenus et ont gardé leur sang-froid. Je n'avais rien à gagner. Je pense qu'aujourd'hui, vous le voyez, dans cette dernière ligne droite, juste avant le vote du rapport, vous pouvez voir une bonne partie de la presse publique subventionnée et aux ordres de M. Niel et M. Pigas se déchaîner contre moi. Donc je savais que je n'avais rien à gagner, mais je pense que c'est salutaire. C'était la première fois que l'Assemblée nationale ouvrait le capot sur l'utilisation de ces 4 milliards d'euros d'argent public. Il faudra le faire pour bien d'autres politiques publiques, pour bien d'autres dépenses, pour bien d'autres institutions, hauts comités, commissariats, parce qu'on est en train de se déclasser, on est en train de perdre en souveraineté. Les intérêts de la dette en France nous déclassent. Ça va nous coûter dans quelques mois, quelques années, 100 milliards d'euros par an. Donc si on ne fait pas une sorte d'électrochoc pour retrouver de l'efficacité dans la dépense publique, si on ne dit pas aux Français, demain vous allez payer moins, mais vos services publics vont se porter mieux parce qu'on va arrêter avec la bureaucratie, on va arrêter avec les conflits d'intérêts, on va arrêter avec les dépenses inutiles, on n'arrivera pas à sauver notre pays. Donc j'assume de prendre ce risque-là, j'assume que matin, midi et soir, on me casse, on essaye de me discréditer parce que je m'attaque aussi à des gens qui possèdent des médias très puissants et qui feront tout aussi pour me donner une image qui discréditera à la fin le rapport, mais je pense honnêtement que c'est de salubrité publique.
Une dernière question, parce que vous faites partie d'une famille politique qui a toujours tapé sur l'audiovisuel public de gauche, l'UDR, qui a comme objectif, si jamais ils arrivent au pouvoir, de privatiser les services publics. Donc vous êtes parti avec un biais idéologique et une idée en tête. Donc finalement, vous êtes venu vous faire le service public de gauche et vous avez, que vous estimez être de gauche, et vous avez pris le biais des dépenses publiques et de l'allocation des 4 milliards pour vous dire, je vais me faire l'audiovisuel public.
Absolument pas. Depuis le premier jour
en tant que homme de droite qui pense que l'audiovisuel public est de gauche.
Depuis cette première conférence de presse, cette première audition de la commission d'enquête il y a 5 mois, j'ai rappelé publiquement que je croyais aux missions précieuses de l'audiovisuel public et que le rôle de cette commission d'enquête, c'était de jeter un projecteur cru sur les dérives, sur les dysfonctionnements, pour mieux sauver l'audiovisuel public. Aujourd'hui, il est menacé de disparition. Aujourd'hui, on a 81 millions d'euros de déficit qui ont été cumulés depuis 2017 par France Télévisions. Oui, mais une trésorerie qui est passée de plusieurs dizaines de millions d'euros qui est devenue négative chez France Télévisions et des capitaux propres qui sont inférieurs à la moitié du capital social. Selon la Cour des comptes, France Télévisions est menacée de faillite et de disparition. Moi, je crois au service public. Je crois à ces missions précieuses et je pense que la seule façon de les sauver, c'est de créer un électrochoc, que les dirigeants de l'audiovisuel public se rendent compte de cette turpitude pour, une bonne fois pour toutes, mettre en place des recommandations et le sauver. Je ne me suis jamais prononcé pour la privatisation. Peut-être une différence logique avec un certain nombre de personnes de mon camp politique. Mon seul rôle depuis le début, c'est de mettre un terme définitif à ces dérives qui minent, notamment les conflits d'intérêts, qui minent l'audiovisuel public. Alors, il y a un certain nombre d'entorses au pluralisme, à l'honnêteté de l'information, à la neutralité, qu'on a pu constater. C'était l'une des 3 dimensions de la commission d'enquête. Il faudra aussi les résoudre. Je veux pas être caricatural. Moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'à la fin, dans les 4 milliards d'euros d'argent que les Français mettent chaque année, leur service public fonctionne davantage.
Charles Alloncle, vendredi, à votre place, nous recevons Mathieu Pigas, l'un des actionnaires de Media One qui travaille pour le service public. Vous l'avez d'ailleurs auditionné récemment. Si vous aviez une question à lui poser à Mathieu Pigas.
Moi, j'aimerais simplement lui poser une question. Au-delà des outrances qu'on a pu voir, notamment lors de son audition à Elsa Geniel, il y a plusieurs questions majeures auxquelles il n'a pas répondu. Il y a, est-ce que Media One, qui pourtant est détenu par un fonds d'investissement américain qui est actionnaire majoritaire, pourquoi il ne veut pas fournir la preuve que KKR, fonds d'investissement américain, est minoritaire? Pourquoi est-ce qu'on a constaté dans les audits de production qu'il y a une surfacturation systématique de Media One, dont Mathieu Pigas est fondateur, de 10 points? Il y a un écart de 10 points entre la marge constatée à la fin et ce qui est initialement prévu par le devis. Pourquoi est-ce que Monsieur Pigas a mis son groupe Combat, un groupe médiatique dont il assume la bataille culturelle et politique? Pourquoi il a mis le groupe Combat à la tête et actionnaire du groupe Media One qui produit des émissions du service public? Pourquoi, par exemple, le groupe Media One invite Mathieu Pigas et Xavier Niel, par exemple, pour faire la promotion de sa Freebox sur une émission du service public? C'est autant de questions très importantes, parce que Media One, je le rappelle, est la première société de production qui bénéficie des contrats avec France Télévisions. C'est 110 millions d'euros par an.
Merci.
Et malheureusement, je suis très déçu, mais on n'a pas eu la réponse à ces quatre questions fondamentales. Eh bien, peut-être qu'il pourra vous répondre.
On verra s'il y a des réponses vendredi.
Merci Charles Lalonde, dernière journée de la commission aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Merci d'être passé par les GG.
Merci
est 11h20, à tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story. Avant de reprendre la parole, on va commenter ensemble ce qu'a dit Charles Lalonde avant d'évoquer l'accident au passage à niveau hier. Mais on va en parler avec Antoine Dierce, avec Fatima Hidbounou et Didier Giraud. Mais je voudrais qu'on accueille Lionel de Gironde. Bonjour Lionel.
Oui, bonjour les Grandes Gueules.
C'est vous le gagnant Europa Park, camarade.
Voilà, super, merci RMC.
Bravo.
Je vous en prie Lionel, donc vous gagnez... 4 places, séjour de 2 jours à l'Europa Park.
Ah, génial.
Et vous le connaissez ou pas, l'Europa Park ?
Non, pas du tout.
Et ben vous allez vous régaler, 100 attractions, le nouveau quartier qui est dédié à la Principauté de Monaco, l'univers aquatique rue Lantica, voilà. Vous allez apprécier tout ça, Lionel.
Eh ben merci beaucoup les Grandes Gueules, merci RMC, continuez comme ça.
Merci mon cher Lionel, à bientôt, profitez bien.
Sur RMC, gagnez votre séjour à Europa Park Resort. Plus de 100 attractions et spectacles, un nouveau quartier dédié à Monaco et rue Lantica, l'univers aquatique.
Charles Lalonde qui vient de nous quitter, c'est la dernière journée d'audition là tout à l'heure à l'Assemblée nationale où il reçoit d'ailleurs la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Qu'est-ce que tu as pensé de ces explications, de tout ce qu'il a dit Didier Giraud, Charles Lalonde?
Bah, moi, c'est des sujets qui sont quand même un peu loin de moi et je trouve... que ça, cette commission d'enquête, elle a le mérite d'exister. Enfin, on peut pas à ce micro dire que l'État est incapable de se réformer, que l'État gaspille le pognon public et ne pas soutenir ce genre d'action. Alors après, qu'il y ait des pressions, qu'il fasse un peu de politique, ça, enfin, je veux bien l'admettre. Mais tu vois, moi, ce que j'attends, c'est la suite, quoi. Parce qu'on a beaucoup parlé de qu'est-ce qui se passe si son rapport est pas voté, mais on n'a pas parlé de qu'est-ce qui se passe si son rapport est voté. Ça sera suivi de quels effets? Est-ce que ça va réformer le système? Est-ce que France Télévisions arrêtera de payer deux fois? Une fois à travers ses 9000 salariés à 72 000 euros et de une fois par les boîtes de prod privées. Enfin, tu vois, c'est ces questions-là que j'ai, moi. C'est ce rapport, il enclenche quoi derrière dans la saine gestion du pognon public? Et du coup, si ça marche, à quand la commission d'enquête sur le fonctionnement de l'hôpital public? À quand la commission d'enquête sur le
fonctionnement peut être le rôle des députés, hein.
Des établissements pénitentiaires? À quand les commissions d'enquête sur la réforme de la sécurité dans notre pays? Enfin, tu vois, il y a un moment donné, on peut pas hurler pendant des mois à ce micro l'argent public est mal utilisé et ne pas soutenir ce que font des députés, même s'ils font un peu de politique à travers ça, quoi. Moi, je trouve que c'est essentiel dans la vie d'un député. C'est pas que voter les lois, c'est pas que voter des budgets, c'est aussi s'assurer quand ça dysfonctionne, qu'on utilise le pognon public correctement. Parce que je pense que c'est un sujet qui finalement touche les Français. En dehors de l'acceptation de l'imposition, c'est comment on dilapide leur argent dans des conneries.
Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Didier, et j'irai même plus loin. Je suis ahuri, complètement fasciné par la violence des attaques contre ce député qui fait son travail. Il y a des pressions dingues. J'imagine que les membres de la commission qui doivent voter le rapport, voire même le président, j'imagine, subissent des pressions à leur tour.
Faut préciser
vu le niveau des pressions, ouais. C'est qu'ils touchent au bon endroit.
Sauf qu'il faut quand même préciser une chose, et c'est un peu le côté incongru de ces commissions, c'est-à-dire qu'ils sont pas tous du même bord politique. C'est-à-dire que le président, est Horizon, donc Edouard Philippe, et Charles Lalonde, qui est Éric Ciotti, les UDR. Donc déjà, tu mets, t'as un tandem en fait qui politiquement n'est pas d'accord.
C'est aussi l'équilibre.
Oui, mais c'est équilibré. Mais finalement, tu les as vus souvent se critiquer, se répondre, et on était loin quand même du problème, parce que le problème c'est pas leur discorde. On s'en fout qu'ils pensent pas la même chose. Ce qui nous intéresse, c'est précisément que fait-on des 4 milliards d'euros qu'on donne à une deuxième public.
La diversité d'opinion est une garantie de la qualité du travail de la commission. je te comprends pas là-dessus parce que
il y a eu des questions
de la gauche. T'avais Ercilia Soudé qui essayait de poser des questions, c'était pas très intéressant, etc.
Non, mais je parle pas de ça. Je parle du président, du rapporteur, où parfois on assistait à un spectacle, le spectacle de leur dispute en direct. Je trouve que ça n'avait aucun intérêt par rapport à l'objet de la commission.
J'ai le sentiment que le président subit des pressions.
Regardez en intégralité les auditions.
D'accord, mais je les ai regardé beaucoup les auditions.
Le président me semblait vouloir retenir le rapporteur lorsqu'il posait des questions. Et je me demande quelle pression peut subir ce président pour tenter de limiter l'action d'un rapporteur.
Oui, mais si tu veux, c'est Charles Lalon qui a un truc qui le disqualifie d'autorité par rapport à certains, c'est qu'il fait partie de l'UDR d'Éric Ciotti, qui est proche du Rassemblement National.
Et pourquoi ça disqualifie
Pour certains, c'est une disqualification politique. Et donc, c'est pour ça que j'ai posé la question sur le bio-idéologique. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il est régulièrement dans la ligne de mire de certains médias ou de certains
auditorialistes. Mais ça pose un problème, parce que si on discrédite...
Alors qu'il est élu et qu'il fait son travail pour faire n'importe quoi.
Il est autant élu que Jérémy Patrier l'est-tu.
Exactement, ou Madame Ercilia Soudé.
Le problème que ça nous pose, si on discrédite un rapport à cause du rapporteur, faut le faire avant. Parce que là, on va pas travailler pendant 6 mois, auditionner 230 personnes, et puis au moment où le rapport est voté, les gens découvrent que, c'est problématique. Sinon, on est vraiment la France Pénélope. C'est quoi la France Pénélope? C'est Pénélope qui attend Ulysse, et pour gagner du temps, elle fait son tricot, elle détricote, elle refait. Nous, on fait la même chose avec les rapports. Donc on dit, il y a un problème, on va faire un rapport. On va oublier le rapport, cacher le rapport. Dans 3 mois, on redécouvre le problème, on refait un rapport, on recache le rapport. Sur tous les sujets,
c'est ça.
Mais je trouve que ça nous rend fous.
Attendez.
Personnellement, et nous, on va commenter ça. Moi, je vais pas rester folle longtemps avec vous. Je ne vais pas commenter. Parce que ça m'a rappelé des souvenirs lorsqu'il parlait des animateurs producteurs. Cette histoire de Delarue.
De la rue et Nagui,
il est décédé
au Guignol,
depuis.
Ils étaient, et c'était au Guignol,
ça va être
Arthur. Oh, le pognon! Ah, le pognon!
C'était à l'époque, c'était Jean-Pierre Elkabbach, patron de France Télévisions, et les Guignols qui appelaient ces gens-là les voleurs de passage.
Donc, on avait déjà cet imaginaire-là, c'était les années 90. Oui. J'étais jeune, j'étais à la maison chez mes parents, je regardais. On reparle de ça, c'est toujours pas réglé. Pour moi, un problème, en vrai, un problème dont on parle tout le temps, c'est plus un problème, c'est une structure.
Je pense que Charles Lalonde l'a réussi à faire émerger le sujet. Que le rapport soit voté.
Il y a beaucoup de Français
qui découvrent les chiffres grâce aux nouveaux médias, au fait que ça puisse être mis sur les réseaux sociaux, et qui vont commencer à se dire il n'y a pas gabegie d'argent public alors qu'il n'y a plus une thune et qu'on ne peut pas baisser le prix du carburant parce qu'on n'a pas d'argent, etc.
Là où les gens vont quand même s'interroger, et à mon avis, c'est l'interrogation principale, c'est. Pourquoi ne pas faire appel à des sociétés privées? D'ailleurs, lui-même devrait plutôt le défendre, puisque c'est un libéral, etc. Mais alors, comment ça se fait qu'il y a 9000 salariés à France Télé?
C'est ça.
En fait, il y a à la fois 9000.
Le scandale, c'est qu'il y a les deux.
Il y a à la fois 9000 salariés à France Télé, et en même temps, il y a ce recours aux sociétés privées avec des sommes assez importantes.
Ce qui doit ressortir de toutes ces auditions sur le rapport, c'est. Peut-être faire des économies, mais c'est-à-dire quel est le rôle aujourd'hui de l'audiovisuel public. Voilà, est-ce qu'il faut privatiser des chaînes? Est-ce qu'on doit en garder quelques-unes?
Quelle est la mission?
Quelle est leur mission? C'est ça, si tu veux, et pas uniquement pointer du doigt.
Il a dit qu'il était attaché au service public.
Quel est le service public?
Est-ce qu'on a besoin du service public?
On a besoin de 8-9 chaînes.
14.
Non, mais est-ce qu'il y a une chaîne qui doit être uniquement regroupée toutes les stations régionales, une chaîne uniquement dédiée à la pédagogie, à la culture, au voyage, comme peut être France 5, tu vois, c'est ça.
Est-ce que le service public doit produire des jeux de Nagui? Est-ce que ce ne sont pas des choses qui pourraient être produites par le privé?
C'est pourquoi ils ont besoin des jeux de Nagui?
Parce que c'est ça qui fait rentrer des sous.
Parce qu'il y a une partie du service public qui est financée par la pub. C'est peut-être ça le problème.
Mais
est-ce que le service public doit être financé par la pub?
Non, mais fondamentalement,
ça veut dire qu'il faudrait trouver d'autres recettes et ça serait des recettes.
Le service public. Le service public.
Est-ce qu'on a besoin de 9000 personnes à 72000 euros par an pour faire fonctionner 9
à suivre? C'est la dernière journée d'audition de la commission. D'ailleurs, vous pouvez suivre ça, c'est en direct. Je crois que c'est sur la chaîne parlementaire.
Vous pouvez suivre les travaux
ou sur le site
de
l'Assemblée nationale. C'est très intéressant d'ailleurs à regarder. Aujourd'hui, c'est la présidente de France Télévisions qui va. On va terminer en s'intéressant à cet accident dramatique dans le Pas-de-Calais qu'il a eu lieu. Cet accident dramatique, un passage à niveau, un TGV, un convoi militaire. Le dernier camion passe, s'arrête au passage à niveau, reste bloqué ou enfreint le passage. Du coup, il y a un mort, le conducteur du TGV. Est-ce qu'il faut de nouveau remettre en question les passages à niveau? Sur 32 16 que vous venez en discuter, il est midi moins 25.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
GG les grandes gueules, il est midi moins 20, restez avec nous, on a encore 10 minutes à passer ensemble, à discuter au 32-16, notamment pour parler de cet accident mortel au passage à niveau. Ça s'est passé hier dans le Pas-de-Calais à Bully-les-Mines. En fait, d'après le ministre des Transports, le patron de la SNCF, Jean Castex, pardon, les barrières ont parfaitement fonctionné. Il s'agit d'un convoi de camions qui transportaient du matériel militaire et le dernier camion est resté coincé au passage à niveau au moment où un TGV est arrivé. Il l'a percuté à 160 km/h. Bah, le conducteur de la cabine est décédé et est mort. C'était 6h48 du matin. Il va falloir déterminer les circonstances.
Bah oui, parce qu'il y a un mort, il y a un drame. Et Jean Castex, je trouve, a été très rapide à dire c'est pas le problème de la SNCF, les barrières ont fonctionné, circuler, rien à voir. Parce qu'il y a quand même, quand tu regardes les chiffres, il y a plus de 500 accidents entre 2020 et 2024 sur ces fameux passages à niveau qui ont tué 100 personnes. Donc ce n'est pas rien, c'est même le point noir de la sécurité à la SNCF. Finalement, quand tu prends le train, t'es en sécurité. Mais le seul moment où tu ne l'es pas, c'est quand tu passes les passages à niveau. Alors c'est vrai que quasiment dans 100% des cas, ces accidents sont liés au non-respect du code de la route. C'est la faute de l'automobiliste. Alors, on verra ce que dit l'enquête. Mais il y a des chances que malheureusement, sauf que là, c'est le conducteur du TGV qui est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on nous dit que ça coûte très cher d'enterrer ces passages à niveau, de les modifier, etc. C'est plusieurs centaines de milliards d'euros, semble-t-il, parce qu'il y en a 15 000 encore.
18 000. Mais passage, là.
Moi, je prends cette ligne.
Est-ce qu'on pourrait, il y en a beaucoup dans chez toi, dans les Hauts-de-France.
Oui.
Est-ce qu'on pourrait quand même déjà s'occuper de ceux qui proposent problème? Je crois qu'il y en a 1% sur les 15 000 et puis, qui sont recensés.
Ceux qui sont sur des lignes TGV, quoi.
Hein. Mais là,
c'est
il empruntait
des lignes grande vitesse. C'était pas une ligne
grande vitesse, mais c'était
un TGV. C'est
le TGV Dunkerque-Paris, mais sur toute cette première partie, on est à 160 max. Ah, voilà, c'est une ligne classique.
Mais dire quand c'est la Michelin Gasoil qui roule à 45 à l'heure chez moi, qui passe à un passage à niveau, le risque n'est pas le même que quand c'est un TGV à 160.
C'est pas faux.
Et moi, ce que j'ai compris du problème, c'est qu'il y a quand même très souvent un problème avec les convois exceptionnels qui ont des normes de hauteur en France qui font que le peu que le passage à niveau soit surélevé, il reste coincé. Voilà, c'est pas la première fois qu'un convoi exceptionnel avec un VAB où là c'était un pont mobile du génie reste coincé sur un passage à niveau. Alors peut-être que l'enquête dira que le chauffeur n'a pas respecté la législation. J'ai quand même un doute dans un convoi militaire exceptionnel qu'on ne respecte pas la barrière qui se baisse.
Bon, c'est une société privée. C'est une société privée qui travaille pour l'armée. C'est pas des militaires au volant.
La hauteur du convoi exceptionnel et c'est des.
Mais quand on dit les barrières ont parfaitement fonctionné, ça suffit pas parce que si les barrières fonctionnent, mais si parce qu'il y a un problème de hauteur, le conducteur malheureusement se retrouve bloqué. Il y a quand même une responsabilité de ceux qui ont mis en place ce passage à niveau.
Et le troisième camion du convoi, les deux autres étaient passés. Apparemment, d'après ce que disent des témoins, les alarmes des barrières ont bien fonctionné. Est-ce qu'il s'est dit, comme de temps en temps, j'ai quand même le temps, j'y vais, il s'est retrouvé coincé? Ça fait partie des hypothèses, Antoine. Et ensuite, on aura Vincent qui est conducteur.
C'était arrivé il y a un an aussi, dans le Pas-de-Calais, toujours. On peut effectivement se dire qu'il faut aménager, faire des tunnels, des ponts, etc. C'est absolument inenvisageable en termes de coûts. On parle toujours des difficultés financières de notre pays. En revanche, ce qui est d'une tristesse infinie, c'est que le conducteur n'ait pas été informé, n'ait pas pu réagir du fait du blocage de ce passage à niveau. Et une solution moins chère que les aménagements lourds, tunnels, ponts, etc., serait au moins d'avoir des caméras sur chacun des passages à niveau, caméras avec une image reprise dans le train, et que le conducteur à l'approche d'un passage à niveau puisse humainement vérifier que le passage à niveau est vide et pouvoir déclencher un freinage s'il devait constater que le passage à niveau était occupé. Donc oui, il y a des choses à faire. On peut pas imaginer des tunnels, mais
à 160, quant à l'image, le passage à niveau n'est pas encore fermé, quoi.
Hein. Je ne dis pas que tu t'arrêtes, mais que tu freines.
On a Vincent qui est conducteur.
Là, il est plein pour.
Bonjour Vincent.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous pensez de ce drame qui a coûté la vie à votre collègue d'ailleurs?
Oui, bah oui, déjà, je voudrais rendre hommage, je voudrais rendre hommage à ce conducteur, à sa famille et ses quatre enfants, quand même, pour commencer. Et pour la suite, effectivement, visiblement, les barrières et les feux ont fonctionné. Donc, alors, c'est une erreur humaine, certainement, qui a coûté la vie à mon collègue. Maintenant, j'entendais Antoine dire qu'il fallait un retour caméra dans la cabine du conducteur. Bon, on a déjà du mal à faire le wifi à l'intérieur d'un train.
C'est pas faux.
Je veux bien, mais alors, on va falloir faire un partenariat avec je sais pas qui.
C'est moins cher que les tunnels, les ponts, etc. C'est une solution envisageable.
Oui, comme une espèce de boîte noire, vous voyez, pour un avion. Au moins, on peut avoir toutes les circonstances, quoi. Peut-être avec une caméra embarquée qui filme tout le trajet.
Après, moi, je pense que la meilleure solution serait de mettre un flash à chaque passage à niveau, ce qui veut dire que la personne se fait gauler et prend 135 euros d'amende si elle prend le feu rouge. Ça serait beaucoup plus efficace, parce que là, en fait, un train, ça met, les barrières, quand le signal commence à sonner, le train arrive 35 secondes derrière. 35 secondes, c'est vachement long, en fait, hein, pour pouvoir partir du truc. Et si toutefois on est bloqué, il y a des téléphones de voix, donc ils sont repris avec ils sont orange, presque fluo, et dès que vous décrochez le combiné, vous tombez sur quelqu'un qui peut faire arrêter le train. Donc même à 35 secondes, si vous êtes bloqué,
vous pouvez l'arrêter là, le TGV, même à 160 km/h, vous l'arrêtez ou pas?
Non, mais il s'arrête pas, mais s'il est à 35 secondes, et qu'il freine, ça va être beaucoup moins violent que s'il freine en arrivant dessus, quoi.
Mais là, Vincent, comme vous parlez, vous êtes sûr que c'est le chauffeur du camion qui a fait, qui a franchi le passage à niveau? On n'a pas de certitude là-dessus.
Non, alors il y a une enquête. Je reprends sur ce qui s'est dit et sur les témoins. Effectivement, visiblement, et de toute façon, il y avait un TER qui était passé juste avant, qui avait fermé les barrières. Il y avait un TGV croiseur qui était passé un petit peu avant et qui avait aussi fermé les barrières.
Le chauffeur est polonais. Hein.
La troisième chauffeur du camion.
C'était le troisième chauffeur du convoi. Vincent, restez avec nous parce qu'on a Rémi, agriculteur, qui est dans la Marne. Bonjour Rémi.
Bonjour Alain.
Et vous êtes retrouvé coincé à un passage à niveau?
Oui, dans les années, on était, je vais pas vous donner la date exacte, on était avant l'euro. Parce que je me rappelle très bien, c'est le montant.
L'euro 80. Le montant de l'amende.
J'habite dans la Marne. À l'époque, j'arrachais des pommes de terre et je ramenais mes pommes de terre chez un voisin pour les stocker en chambre froide. Avec un grand plateau à paille, Didier pourra vous en parler, comment c'est fait. Et donc, j'étais le premier à l'arrêt devant cette barrière qui est à côté de chez moi, que je connais, que je passe régulièrement. Un train est passé, la barrière s'est soulevée, je me suis engagé, et juste derrière ma cabine, la barrière s'est refermée. Et j'ai avancé, j'ai arraché la demi-barrière en PVC, je me suis arrêté, et les gens qui étaient derrière moi, j'ai eu la chance d'avoir un retraité de la SNCF, qui a arrêté tout le monde, qui a sauté sur le téléphone en fonte là, le long, qui a prévenu comme quoi la ligne Paris-Strasbourg était arrêtée. Et c'était un train de marchandises de céréales. Donc j'ai pris des identités quand même des gens qui étaient derrière moi. Et puis je suis reparti. J'appelle mon assureur immédiatement, qui était AXA à l'époque, pour leur prévenir de mon incident. Et dans la minute, pour ainsi dire, la SNCF m'appelle, de Vitry-le-François, pour prendre un rendez-vous avec moi. J'ai dit, écoutez, moi j'ai aucun dégât, j'ai cassé une petite barrière en PVC, il n'y a aucun problème, il n'y a rien. J'ai eu un peu peur, mais ça s'arrête là. On s'est rencontrés le lendemain. La petite histoire a coûté 75 000 euros. 75 000 francs.
75 000 combien?
75 000 euros d'amende.
Francs.
75 000 francs.
Ah oui, 75 000 francs à l'époque.
Ça fait combien en euros alors?
Oui, mais il ne faut pas le traduire comme ça, parce qu'avec le pouvoir d'achat.
Enfin, ça faisait une petite somme quand même à l'époque.
Ça fait
12 000
euros. 12 000 euros.
Oui, c'est une conversion pure.
Et mon assureur à l'époque m'a dit, on paye, on ne discute pas avec la SNCF.
D'accord, mais est-ce que vous avez eu l'impression, Rémi, de vous être engagé un poil trop tard sur le passage à niveau?
Non, non, pas s'engager un poil trop tard. Un tracteur, c'est pas une Ferrari.
Là, ah ouais, bah justement. Tracteur, c'est pas une Ferrari. Tu redémarres, si t'es chargé, faut y aller.
En fait, le vrai, au lieu d'accabler les automobilistes, on va peut-être se poser la question, comment ça se fait qu'en 2006, il y a autant de passages à niveau? 15 000. Alors, je sais que c'est un coût, mais peut-être qu'on pourrait, en 2026.
Comment il n'y a pas une sécurité automatique? Bah, comment ça se fait qu'il n'y a pas une sécurité automatique?
Il y en a 1% qui
pose problème. Moi qui fais régulièrement la ligne TGV Paris-Lyon, si on est sous, moi je suis souvent dans le premier train qui passe le matin, s'il y a des outils ou des, enfin, si les équipes de maintenance ont laissé un truc qui traîne, le train, ça s'arrête.
En tout cas, merci Vincent et merci Rémi de vos témoignages.
Il n'y a pas de sécurité sur les passages à niveau. 10 secondes.
Moi, c'est pas grave. J'ai pas beaucoup de temps. Ben, je vais profiter de ce temps-là déjà pour présenter mes condoléances à la famille. Cet homme avait 56 ans. Il s'apprêtait à aller à la retraite. Donc déjà, c'est un drame finalement. Voilà, il aura travaillé toute sa vie et ça s'arrête comme ça. Et ce qui me désole, je le dis souvent ici, quand on parle des ponts, quand on parle des passages à niveau, on attend souvent des drames pour parler. Et finalement, c'est pas le moment où on peut parler, parce que le temps n'est pas respecté. Il y a le temps du deuil, le temps des débats, donc voilà.
Merci à tous, on se retrouve demain entre 9h et midi. Estelle Denis prend le relais avec toute son équipe pour discuter, pour débattre, et toujours avec vous au 32-16. Bonjour Estelle.
Salut Alain, salut les GG. Bonne nouvelle, baisse des prix des carburants. Écoutez, viens cesser le feu.
Il y a une promesse pour l'instant.
Dans les 48 heures,
baisse des prix. Déjà les jerrycans dans le coffre.
Je suis à l'électrique. Baisse des prix des carburants de 5 à 10 centimes. Est-ce que finalement... Eh ben, l'État a eu raison de ne pas aider les Français, voilà, puisque ça a duré un mois, mais là ça va aller mieux. Est-ce que l'État a eu raison? On en parle avec vous dans
Bravo le cornu.
Vous allez vite. Au 32-7. Pour une fois, l'État n'a pas cédé. Est-ce que c'est bien ou pas? En tout cas, on va en parler. On va parler de la fin de Minelli, vous savez, l'entreprise de chaussures. Mais
j'en ai.
Ah ben,
c'est pas des chaussures pour femmes.
Précieusement, parce qu'a priori.
C'est toi qui les as, les Minelli, parce que
tu dois être un des derniers acheteurs.
C'est
bien collection.
C'est pas mal, mais enfin c'est fini. Pourquoi? Parce que les Français portent des baskets et plus des chaussures en cuir. Il y a la concurrence des plateformes.
Des chaussures en cuir, t'as raison.
Bah oui. Est-ce que c'est la fin des magasins de chaussures? On se posera cette question. On parlera de Liverpool qui met ses supporters en garde contre la dangerosité de Paris. Est-ce que c'est la honte comme ça que Paris soit pointé du doigt par Liverpool? Là encore 32-16. Et puis je sais pas si vous avez vu ça, mais l'entreprise OpenAI, qui est créatrice de ChatGPT, en fait, elle préconise de révolutionner la société avec la semaine de 32 heures.
Ah, voilà. Ça va être
OpenAI
plaisir.
OpenAI dit, aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, vous allez gagner du temps, donc semaine de 32 heures.
Bien sûr.
D'accord, pas d'accord avec ça? Bah écoutez,
MPA, GPT. Les 32 heures, tu les fais en combien? Alors, en combien de jours?
On s'en fout, c'est combien tu vas gagner?
4 fois 8, quoi.
Eux, ils disent, ils parlent pas de semaine en 4 jours, ils disent 32 heures.
Oui, pour quel salaire?
En deux jours. Écoutez, OpenAI n'a pas réponse à tout pour l'instant.
Ce qui compte, c'est
comme ça on peut prendre du pouce en poids.
32-16, c'est le 32. On n'a pas le temps, justement, ça va être la surprise. Restez avec Estelle Denis en direct jusqu'à 15h.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.